semble, Mopra, prologue. Sur les confins de la Marche et du Berry, dans le pays qu'on appelle la Varenne et qui n'est qu'une vaste lande coupée de bois de chênes et de châtaigniers, on trouve, au plus fourré et au plus désert de la contrée, un petit château en ruine, tapis dans un ravin, et dont on ne découvre les tourelles et bréchets qu'à environ 100 pas de la herse principale. Les arbres séculaires qui l'entourent et les roches éparses qui le dominent l'ensevelissent dans une perpétuelle obscurité. Et c'est tout au plus si, en plein midi, on peut franchir le sentier abandonné qui y mène sans se heurter contre les troncs noueux et les décombres qui l'obstruent à chaque pas. Ce sombre ravin et ce triste castel, c'est la roche Mopra. Il n'y a pas longtemps que le dernier des Mopra, à qui cette propriété tomba en héritage, en fit enlever la toiture et vendre tous les bois de charpente. Puis, comme s'il voulut donner un soufflet à la mémoire de ses ancêtres, il fit jeter à terre le portail, éventrer la tour du nord, fendre du haut en bas le mur d'enceinte, et partit avec ses ouvriers, secouant la poussière de ses pieds et abandonnant son domaine aux renards, aux orfraies et aux vipères. Depuis ce temps, quand les bûcherons et les charbonniers qui habitent les huttes éparses aux environs passent dans la journée sur le haut du ravin de la roche Mopra, ils sifflent d'un air arrogant ou envoient à ses ruines quelque énergique malédiction. Mais quand le jour baisse et que l'engoulevent commence à glapir du haut des meurtrières, bûcherons et charbonniers passent en silence, pressant le pas, et de temps en temps font un signe de croix pour conjurer les mauvais esprits qui règnent sur ces ruines. J'avoue que moi-même, je n'ai jamais côtoyé ce ravin la nuit sans éprouver un certain malaise, et je n'oserais pas affirmer, par serment, que dans certaines nuits orageuses, je n'ai pas fait sentir l'éperon à mon cheval pour en finir plus vite avec l'impression désagréable que me causait ce voisinage. C'est que dans mon enfance, j'ai placé le nom de Mopra entre ceux de Cartouche et de la Barbe Bleue, et qu'il m'est souvent arrivé alors de confondre dans des rêves effrayants les légendes surannées de l'ogre et de Croquemitaine avec les faits tout récents qui ont donné une sinistre illustration dans notre province à cette famille des Mopra. Souvent à la chasse, lorsque mes camarades et moi nous quittions l'affût pour aller nous réchauffer au tas de charbons allumés que les ouvriers surveillent toute la nuit, j'ai entendu ce nom fatal expirer sur leurs lèvres à notre approche. Mais lorsqu'ils nous avaient reconnus et qu'ils s'étaient bien assurés que le spectre d'aucun de ces brigands n'était caché parmi nous, ils nous racontaient à demi-voix des histoires à faire dresser les cheveux sur la tête et que je me garderais bien de vous communiquer, désolé que je suis d'en avoir noirci et endolori ma mémoire. Ce n'est pas que le récit que j'ai à vous faire soit précisément agréable et riant. Je vous demande pardon, au contraire, de vous envoyer aujourd'hui une narration si noire. Mais dans l'impression qu'elle m'a faite, il se mêle quelque chose de si consolant et, si j'ose m'exprimer ainsi, de si sain à l'âme, que vous m'excuserez, j'espère, en faveur des conclusions. D'ailleurs, cette histoire vient de m'être racontée. Vous en demandez une ? L'occasion est trop belle pour ma paresse ou par ma stérilité. C'est la semaine dernière que j'ai enfin rencontré Bernard Mopra, ce dernier de la famille, qui, ayant depuis longtemps fait divorce avec son infâme parenté, a voulu constater, par la démolition de son manoir, l'horreur que lui causaient les souvenirs de son enfance. Ce Bernard est un des hommes les plus estimés du pays. Il habite une jolie maison de campagne vers Châteauroux, en pays de plaine. Me trouvant près de chez lui, avec un de mes amis qui le connaît, j'exprimai le désir de le voir, et mon ami, me promettant une bonne réception, m'y conduisit sur le champ. Je savais en gros l'histoire remarquable de ce vieillard, mais j'avais toujours vivement souhaité d'en connaître les détails, et surtout de les tenir de lui-même. C'était pour moi tout un problème philosophique à résoudre que cette étrange destinée. J'observais donc ses traits, ses manières et son intérieur avec un intérêt particulier. Bernard Mopra n'a pas moins de 80 ans. Quoique sa santé robuste, sa taille droite, sa démarche ferme et l'absence de toute infirmité annoncent 15 ou 20 ans de moins. Sa figure me semblait extrêmement belle, sans une expression de dureté qui faisait passer, malgré moi, les ombres de ses pères devant mes yeux. Je crains fort qu'il ne leur ressemble physiquement. C'est ce que lui seul eut pu nous dire, car ni mon ami ni moi n'avons connu aucun des Mopra, mais c'est ce que nous nous gardâmes bien de lui demander. Il nous sembla que ses domestiques le servaient avec promptitude et une ponctualité fabuleuse pour des valets berrichons. Néanmoins, à la moindre apparence de retard, il élevait la voix, fronçait un sourcil encore très noir sous ses cheveux blancs, et murmurait quelques paroles d'impatience qui donnaient des ailes au plus lourd. J'en fus presque choquée d'abord. Je trouvais que cette manière d'être sentait un peu trop le mot prat. Mais à la manière douce et quasi paternelle dont il leur parlait un instant après, et à leurs ailes, qui se sembla bien différent de la crainte, je me réconciliai bientôt avec lui. Il avait, d'ailleurs, pour nous, une exquise politesse, et s'exprimait dans les termes les plus choisis. Malheureusement, à la fin du dîner, une porte qu'on négligeait de fermer et qui amenait un vent froid sur son vieux crâne lui arracha un jurement si terrible que mon ami et moi nous échangeâmes un regard de surprise. Il s'en aperçut. « Pardon, monsieur, nous dit-il, je vois bien que vous me trouvez un peu inégal. Vous voyez peu de choses. Je suis un vieux rameau heureusement détaché d'un méchant trône et transplanté dans la bonne terre, mais toujours noueuse et rude comme le houx sauvage de sa couche. » J'ai eu encore bien de la peine avant d'en venir à l'état de douceur et de calme où vous me trouvez. Hélas, je ferais, si je l'osais, un grand reproche à la Providence. C'est de m'avoir mesuré la vie aussi courte qu'aux autres humains. Quand pour se transformer de loup en homme, il faut une lutte de 40 ou 50 ans, il faudrait vivre 100 ans par-delà pour jouir de sa victoire. Mais à quoi cela pourrait-il me servir? Ajouta-t-il avec un accent de tristesse. La fée qui m'a transformée n'est plus là pour jouir de son ouvrage. Bah, il est bien temps d'en finir. Puis il se tourna vers moi et me regardant avec ses grands yeux noirs étrangement animés. « Allons, petit jeune homme, me dit-il, je sais ce qui vous amène. Vous êtes curieux de mon histoire. Venez près du feu et soyez tranquille. Tout Mopra que je suis, je ne vous mettrai pas en guise de bûche. Vous ne pouvez me faire un plus grand plaisir que de m'écouter. Votre ami vous dira pourtant que je ne parle pas facilement de moi. Je crains trop souvent d'avoir affaire à des sots. Mais j'ai entendu parler de vous. Je sais votre caractère et votre profession. Vous êtes observateur et narrateur, c'est-à-dire, excusez-moi, curieux et bavard. » Il se prit à rire, et je m'efforçai de rire aussi, tout en commençant à craindre qu'il ne se moquât de nous. Et, malgré moi, je pensai au mauvais tour que son grand-père s'amusait à jouer au curieux imprudent qui allait le voir. Mais il mit amicalement son bras sous le mien, et me faisant asseoir devant un bon feu, auprès d'une table chargée de tasses. « Ne vous fâchez pas, me dit-il, je ne peux pas, à mon âge, guérir de l'ironie héréditaire. La mienne n'a rien de féroce. À parler sérieusement, je suis charmé de vous recevoir et de vous confier l'histoire de ma vie. Un homme aussi infortuné que je l'ai été mérite de trouver un historiographe fidèle, qui lave sa mémoire de tout reproche. Écoutez-moi donc, et buvez du café. » Je lui en offris une tasse en silence. Il la refusa d'un geste, et avec un sourire qui semblait dire « Cela est bon pour votre génération efféminée. » Puis il commença son récit en ces termes.